Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Frédéric Weiss, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être le premier invité de 48, le nouveau podcast de Basket USA et TDA Media.
Non, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir.
Bon, plaisir partagé en tout cas. Frédéric Weiss, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous comptez 100 sélections en équipe de France, tout rond.
Oui, c'est un métier ça, ouais. Je t'expliquerai comment on fait.
Une médaille d'argent aux Jeux Olympiques, une médaille de bronze à l'Euro 2005, deux coupes Corach, un titre de champion de France, une coupe de France. Vous êtes désormais consultant pour SFR Sport. Vous avez donc eu une très belle carrière. Malgré tout ça, tout le monde vous parle encore de Vince Carter.
On commence tout de suite comme ça, tu me laisses même pas le temps de m'échauffer.
Est-ce que vous en avez marre d'entendre parler de Vince Carter ?
Alors, je sais pas, c'est un peu compliqué parce qu'en même temps, je fais tout pour le provoquer aussi. J'ai fait, au All-Star Game, j'ai eu la chance de voir DJ Stephens et lui proposer de faire le dunk au-dessus de moi. Enfin, l'équipe d'SFR a proposé qu'il le fasse et moi, j'ai accepté bien évidemment. Donc, réellement, ça me pose pas de problème en soi. Après, j'ai fait d'autres choses dans le basket, effectivement, et comme tu viens de le dire, et ce qui m'ennuie, c'est que les gens puissent se rappeler que de ça.
Alors, justement, on va commencer par le positif.
Donc, il y a beaucoup de négatifs aussi.
Non, mais alors, le principe de ce podcast, et c'est vrai qu'on vous essuie les plâtres, c'est de raconter des histoires, et vous avez quand même un parcours basket et une vie qui est quand même assez atypique, où il y a eu beaucoup de choses. On va essayer de passer un peu tout ça en revue. Justement, avant de parler de Vince Carter ou des choses comme ça, vous avez une énorme carrière, on l'a dit. Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui ? C'est quoi le souvenir de basket le plus vif qui reste dans votre esprit ?
Eh bien, justement, les Jeux Olympiques. Ramener une médaille pour la France, ça ne s'est pas vu très souvent. D'ailleurs, même la bande à Tony n'a pas réussi à la ramener, donc c'est que c'était quelque chose d'extraordinaire.
Je crois que j'avais la stat, c'est 1948, équipe qui l'a fait.
Ouais. Et la prochaine sera peut-être en 2048. Donc, non, je le souhaite avant, bien évidemment. Mais non, c'est une vraie satisfaction de ramener une médaille olympique. On n'était pas prédestiné à ça. Les choses se sont bien enchaînées, donc c'était cool.
L'année 2000, quand même, faste, parce qu'il y a la médaille olympique, mais il y a champion de France, Coupe Corach. Sportivement, humainement, ça devait être quand même une aventure.
C'est une année compliquée, hein, 2000, parce que c'était l'année où le CSP avait des problèmes financiers, où on n'était pas payé. Oui. J'ai renoncé à 70% de mon salaire. Je ne sais pas si on le ferait encore à notre époque. Ouais. Nous, c'était l'amour du maillot qui nous avait poussé à le faire. On l'avait tous fait quasiment dans l'équipe. Donc c'était une année très riche en titres et en mémoire, mais financièrement pas très riche. Hein. Si j'avais fait que des années comme ça, je serais vraiment en difficulté. Là.
Mais du coup, ça devait être quand même un ascenseur émotionnel dingue, du coup, parce qu'il y a des problèmes financiers, mais en même temps, il y a des victoires sur le terrain. Quoi.
Non, mais c'est surtout qu'à l'époque, on ne savait pas d'un match à l'autre si on allait continuer. Parce qu'on ne savait pas exactement si l'équipe pouvait continuer dans ces conditions-là, si le plan de sauvetage, entre guillemets, allait être considéré par la Ligue. Donc à chaque match, on disait que c'était peut-être le dernier, quoi.
Ah oui, donc oui, en effet, ça fait une ambiance quand même.
Ça faisait une ambiance un peu tendue, mais en même temps, on s'entendait tellement bien que tous les soirs, on sortait ensemble, on allait manger, on sortait juste pour aller manger. Hein. Non, rassurez-vous, on ne fait pas de bêtises.
Je ne cherche pas forcément les dossiers.
Non, il y avait zéro dossier. Enfin, à cette époque-là, en tous les cas, il y a eu des dossiers parfois, mais pas sur ce coup-là.
Donc, ces années-là, 2000, en effet, petite mention quand même, question que je voulais vous poser, c'était 2010, vous revenez à Limoges et vous jouez en Pro B. C'est une sorte de manière de boucler la boucle.
Je ne souhaitais pas rejouer.
D'accord.
C'est le regretté Fred Forte qui m'a dit, écoute, si tu veux, tu peux t'entraîner avec nous, ça te fera du bien. Moi, je ne cherchais plus de club, je pensais avoir arrêté le basket, je pensais avoir fait ce que j'avais à faire. Et Fred Forte m'appelle, il me dit, tu veux t'entraîner avec nous ? J'ai dit, ouais, mais je vais vous ralentir, je ne me suis pas entraîné depuis quelques temps. Mais t'inquiète, ça fait plaisir, tout ça, on est en Pro B, tu devrais pouvoir t'en sortir. Donc je m'entraîne, et au fur et à mesure, je suis quasiment au niveau, et il y a deux, trois mecs qui se blessent, et il me dit, Fred, tu te rappelles quand je t'avais dit que tu n'allais pas jouer ? J'ai dit ouais, eh ben j'avais menti. donc tu vas jouer. Donc c'est comme ça que j'ai repris de fil en aiguille. Et je ne regrette pas, c'était une expérience comme une autre. Je n'avais jamais joué en Pro B de ma vie. Et ça m'a permis de découvrir cette division.
Ouais, donc c'était un piège depuis le début.
Non, alors je ne sais pas, parce que Fred Forte était un garçon très intelligent. Alors peut-être, mais je ne suis pas certain. Non, je crois que c'était juste le plaisir de se retrouver. Fred a été mon coéquipier pendant des années. L'avoir comme président, j'ai trouvé ça plutôt sympathique.
Et alors paradoxalement, sur votre carrière, ce dont on parle presque le moins en France, c'est la période la plus longue, c'est l'Espagne.
Oui.
Où au final, vous êtes un joueur quand même majeur, important, un défenseur solide, un des meilleurs défenseurs d'Europe. Et ça, au final, c'est assez, ça passe quasiment inaperçu en France, quoi.
Ouais, on dit souvent nul n'est prophète en son pays. J'ai été deux fois dans le meilleur 5 majeur en Espagne, élu par le public. Alors, on avait une fan zone à Bilbao qui était très importante, mais quand même. Et j'étais meilleur défenseur d'Europe. J'ai été dans les 10 meilleurs contreurs en Espagne aussi, de l'histoire. Ouais, j'ai fait 2-3 trucs, mais c'est vrai que les gens ne savent pas. Et comme c'est pas trop mon style de m'en vanter, maintenant, on se pose la question. C'est pour ça que je réponds. Sinon, c'est pas trop le genre de truc que je raconte.
Mais ça reste d'ailleurs très... pour lier un peu à l'actualité, d'ailleurs. Mais l'Espagne, ça reste pas inaperçu. Mais
non, il plus faut confidentiel.
Être, voilà, il faut être dans le milieu basket pour apprécier. Parce que même des joueurs comme Flo Pietrus a fait une énorme carrière en Espagne, ou Thomas Hurtel actuellement, Edwin Jackson est à Barcelone aussi. Enfin, il y a beaucoup de monde. Et au final, on n'en parle pas énormément à côté de ceux qui sont en NBA, par exemple. Évidemment.
Alors honnêtement, ça va faire très corporate ce que je vais dire, mais je crois qu'on en parle plus de l'Espagne depuis que SFR a les droits et qu'on diffuse beaucoup plus de matchs. C'est vrai que Bein, ou alors c'est moi, du fait d'être sur SFR, que je m'en rends plus compte. Mais en tout cas, j'ai l'impression que le fait de diffuser autant de matchs permet de connaître les autres championnats aussi. Et je trouve que le traitement qu'on y fait sur SFR est plutôt intéressant.
Oui, c'est sûr qu'après, une fois que les diffuseurs s'en mêlent, ça permet aussi d'avancer là-dessus. Ouais.
Honnêtement, sinon, c'est difficile. Parce que c'est vrai qu'il y a des. Je crois que c'est l'équipe 21 qui a les droits du championnat espagnol, mais ils ne s'en servent pas du tout. Ce qui est vraiment dommage, parce que c'est un championnat magnifique. Et le basket en France, c'est malheureusement très confidentiel.
Oui, oui, non, c'est ça.
Mis à part la NBA, c'est difficile.
Et puis, c'est vrai qu'on chante quand même les louanges de l'Espagne assez régulièrement, mais en même temps, qu'on ne met pas toujours en valeur les joueurs qu'on a là-bas, quoi.
Ouais, c'est dommage parce que le championnat espagnol est vraiment le meilleur championnat d'Europe. Je ne parle pas d'Euroleague, d'Eurocoupe, etc. Mais en championnat national, c'est le meilleur d'Europe, clairement, au niveau des structures, au niveau des joueurs qui y sont, au niveau de la qualité du championnat. Mais c'est comme ça. Quand c'est un peu. J'allais dire quand c'est loin, non, parce que la NBA c'est différent, parce qu'ils ont tout un marketing derrière qui permet de valoriser. L'Espagne n'a pas ça, mais par contre c'est intéressant à voir.
Oui, il y a du basket.
Il y a du vrai basket. Ouais.
Alors on a passé un peu en revue votre carrière. Vous l'avez dit, il y a cette médaille olympique qui est le temps fort évidemment. On va reparler évidemment un petit peu de Vince Carter. J'ai un petit son à vous faire écouter. Vous avez évoqué ça tout à l'heure.
C'est DJ Stephens qui va vous dunker dessus.
Ah bon, vous m'avez peur.
Mais c'est lui qui a le maillot de Fred Weiss. Oh, il a passé dessus.
Eh hey Boris, merci Fred Boris.
Voilà, c'est la
revanche. La vengeance.
Comme ça, c'est on a remis les comptes.
Exactement, maintenant on sait.
Alors, DJ Stephens qui est passé au-dessus de vous, c'était le All-Star Game français fin 2017.
C'est ça.
Est-ce que c'est vraiment une manière de boucler la boucle ou est-ce que c'était vraiment un truc pour se marrer ou il y avait une vraie symbolique là-dedans?
Franchement, pour moi, il y avait zéro symbolique. Bon. Il y avait juste le fait que je savais que ça allait plaire au public et je savais que tout le monde serait content de voir une action aussi spectaculaire. Après, il y avait une histoire derrière, mais c'était plus pour les initiés, j'allais dire. Mais en tout cas, ça a permis à un public de Bercy en feu déjà, de prendre encore plus feu parce que c'était une action quand même assez incroyable.
D'ailleurs, il monte, enfin DJ Stephens, il monte presque plus haut.
Pour moi, il monte plus haut.
Ouais, il monte plus haut.
Pour moi, il monte plus haut parce que lui, il m'a pas touché en tout cas. Il s'est pas appuyé avec sa main pour sauter.
C'est ça, il y a l'histoire de la main
c'est
aussi.
C'est ça.
Alors, on a vu il y a quelques années, j'ai plus la date exacte, Vince Carter s'était excusé auprès d'ESPN. Alors, c'était des excuses légères. Vous les aviez vues à l'époque ou
bon,
pas
alors, on me l'avait raconté, mais il n'avait pas à s'excuser. Il fait une action extraordinaire. En plus, ce qui est drôle, c'est que c'était en poule et qu'on s'est vu en finale après et qu'on s'était pris dans les bras l'un de l'autre parce que voilà, on avait fait un truc ensemble, même si moi, j'étais pas pour beaucoup. Je trouvais plutôt sympa qu'on se prenne dans les bras. J'avais pas d'animosité contre lui. Félicitations à lui, c'est un extraterrestre. C'est un formidable basketteur, mais en plus, il avait des qualités physiques hors normes qu'il a encore conservées quand même. À son âge, il joue encore.
Oui, il est toujours sur le terrain et c'est vrai qu'il faut aussi rappeler ça. C'est quand même, je vais pas dire le plus grand dunker de l'histoire, mais c'est pas loin. Enfin,
je pense qu'au niveau détente, ça doit être le plus grand dunker. Après, le hang time de Michael Jordan, par exemple, oui. Qui était plus intéressant. Il sautait peut-être un peu moins haut, mais on avait l'impression qu'il restait plus longtemps en l'air. Mais voilà, c'est quand même un truc extraordinaire. Voilà, c'est la vie. Honnêtement, si je devais me prendre la tête sur des trucs comme ça, ce serait grave.
Après, en fait, ce qui est assez passionnant avec cette histoire-là, pour être honnête, c'est que le temps semble avoir compressé un peu tout. C'est-à-dire que on a entendu parler de ce dunk, évidemment, les gens le revoient sur YouTube même 17 ans après. Mais derrière, on a entendu parler d'Enix, on a entendu parler dans des interviews que vous avez données plus tard de votre dépression, de votre retour. Et on a l'impression que tout ça s'est mélangé et que les gens disent « Ah bah ce dunk, ça a ruiné sa carrière, etc. » Alors qu'en fait, pas du tout.
Pas du tout.
C'est-à-dire que...
Pas du tout. En fait, il y a plusieurs histoires dans l'histoire, effectivement. Donc j'ai été drafté par les New York Knicks en 99 et je venais de faire une dernière discale. Donc j'avais pas joué depuis 6 ou 7 mois. Je suis arrivé là-bas et je pouvais pas jouer, clairement, après 6 ou 7 mois. Donc les mecs m'ont dit « Bon, écoute, on te laisse une année encore en Europe. » Sauf qu'entre-temps, mon agent Didier Rose est allé en prison. Et mon autre agent, ça c'est une vraie anecdote que je raconte là. Mon autre agent américain m'appelle et me dit « Fred, my wife passed away ». Sauf que j'avais jamais entendu « passed away » de ma vie. J'avais entendu « die » ou autre chose, je veux dire. Mais « passed away », j'avais jamais entendu. Bah, je dis « ok, bah, pas de problème ». Dans ma tête, je pensais « elle était allée se promener, quoi ouais. ». Bah, pas de problème, tu m'appelles quand elle rentre, quoi. Tranquille. Et bah, ça n'a pas dû passer super bien parce qu'il m'a jamais rappelé.
D'accord.
Donc j'avais plus d'agent américain et vous savez qu'il faut être représenté par ouais. un agent américain. Et mon agent français qui aurait pu m'aider à trouver un agent américain était en prison. Et ben finalement les choses se sont passées comme ça et je suis jamais allé en NBA alors que j'avais un contrat garanti. Il aurait suffi que j'aille là-bas et ils auraient été obligés de me prendre. Après Jeff Van Gundy est un abruti fini.
D'accord.
Et il m'a fait la misère pendant toute la Summer League parce que lui il voulait pas me drafter. Et j'avoue que lui, il n'a pas été super cool, mais c'est la vie. Enfin, j'ai un exemple aussi par rapport à lui, c'est que j'avais ma montre pour aller à l'entraînement. Et le mec m'a engueulé, il m'a dit « Pourquoi t'as ta montre ?» Mais je dis « Pour arriver à l'heure à l'entraînement ?» Il dit « Ouais, on ne s'entraîne pas avec une montre. » Mais je dis « Mais on s'entraîne que dans une heure, en fait. » Et donc, il m'a mis la misère juste parce que j'avais ma montre. Donc, j'étais un gamin. Ce que j'aimerais bien, c'est le rencontrer maintenant et lui mettre la tête au carré.
Normalement, quoi. Oui, carrément.
Voilà, parce que c'est facile de s'en prendre un gamin.
Mais c'est marrant parce que j'allais vous dire, moi, j'avais noté dans le New York Times en 2015, ils lui ont parlé de vous. Et il a dit « La seule chose que je me rappelle, c'est que c'était un incredibly nice and sweet guy. » Voilà, tout ce qui se rappelle de vous.
Ben oui, ben comme quoi j'ai dû changer parce que j'aurais plus le même comportement avec lui.
D'accord. Non, mais voilà, c'est marrant que vous me disiez ça parce que voilà, lui, il disait, je me souviens que c'était un gars très gentil.
Il en avait profité.
Voilà, oui, il y a aussi ça.
C'est ça. Mais parce que j'étais très gentil, j'arrivais dans un monde que je ne connaissais pas, je sortais de mon Limoges tranquille où j'étais un peu dans un cocon et le mec en a profité. J'ai mûri, des choses sont passées dans ma vie et j'aimerais avoir une discussion avec ce cher monsieur maintenant.
Ah, ça, bah, peut-être, maintenant que vous êtes consultant sur des JO ou sur un gros événement, ça peut peut-être se faire. Mais c'est vrai que vous le disiez, il y a l'agent qui va en prison, il y a la mésentente avec l'agent américain. C'est vrai que vous avez plus, alors plutôt que le dunk ou quoi que ce soit, c'est surtout que vous avez des fois, on a l'impression que vous avez eu de la poisse, quoi.
Mais j'ai eu de la poisse, j'ai eu des blessures au mauvais moment. Pourquoi me blesser juste l'année où j'allais me faire drafter? J'allais forcément être drafté par les New York Knicks, forcément cette position, que je sois performant ou pas. Et malheureusement, je suis performant, mais je suis blessé. Et voilà, tout s'est enchaîné comme ça.
Oui, puisque vous êtes 15e ou 13e. Oui, j'ai trouvé 15e. C'est pas anodin non plus, quoi, dans une draft NBA.
Surtout que, effectivement, maintenant, ça peut paraître quasiment anodin d'avoir un Européen drafté à cette hauteur. En 99, c'est pas tout à fait le cas.
C'était... Oui, vous êtes. Il y a quoi? Il y a Tariq Abdul-Wahed qui est drafté avant.
Ouais, Tariq. Ouais, Tariq. Il n'a pas énormément. Enfin, ouais. En français, il n'y en avait pas à l'époque.
Oui, c'est ça. Hein.
Mais même sur des Européens en général, il n'y en avait pas énormément.
Hein. Oui, ça restait les débuts.
C'était quand même confidentiel.
Ça restait les débuts, en effet. Un petit mot, donc, juste pour revenir sur les JO. Donc, on parlait de ce dunk, etc. Et derrière, en effet, vous faites un bon tournoi, etc. C'est, encore une fois, ça change rien. Voilà, il n'y a pas un avant et un après. Votre carrière est continue.
Non, rien à voir. Enfin, ensuite, j'enchaîne contre le Canada, si je me rappelle bien. Et ce match fait 5 comptes, je crois, de suite, où il y avait un joueur NBA qui était reconnu que j'éteins complètement. Le match suivant, je fais un double-double contre l'Australie où je défonce Luc Longley.
Ouais.
Donc,
je suis désolé de baisser l'ambiance. Moi, j'avais pas un double-double, j'avais 11,9 rebonds sur les stats.
Non, ça, j'en suis sûr. Ah, bon, c'était 11,10 rebonds.
J'ai
ça, c'est sûr.
Moi, je suis allé voir les stats sur internet.
Bon, allez, on va dire 11,9 rebonds et demi.
C'est un bon match.
Ouais,
en finale.
Je mets des dunks en plus. Ouais. Et c'est surtout que je mets des points au début de match où on n'a pas autant d'avance. Donc, voilà, un vrai match. Non, moi, ça m'a. Enfin, ce dunk, réellement, c'est plus en France où il est critiqué. Dans le sens où je suis critiqué aussi par rapport à ce dunk, mais dans tout le restant du monde, il n'y a pas trop de problèmes.
Après, critiquer, je ne vois pas trop ce que vous pouvez faire sur le moment en plus. Hein.
Mais moi, je ne pense pas non plus, mais je vous me rappelle d'un article d'Arnaud Lecomte que j'aime beaucoup depuis, avec qui on a eu quelques heures entre temps, qui disait que j'avais été trop laxiste, que je m'étais fait avoir, etc. Que, en gros, c'était de ma faute, quoi. Il me jetait tout dessus. On a eu quelques difficultés après, Arnaud Lecomte et moi, mais ça va beaucoup mieux.
Mais après, pendant le tournoi, ce que vous disiez, vous avez revu Carter.
Après, on a revu Carter. Enfin, je me rappelle même de cette action, pourquoi on se prend dans les bras. C'est qu'il tente de pénétrer, il me rend dedans, et là, tout de suite, je la grippe. Et lui, il me prend dans les bras derrière, dire écoute, je ne vais pas te la refaire deux fois. Donc, je trouvais ça plutôt sympa comme image.
Et alors, l'issue, c'est ce que vous disiez, c'est cette médaille d'argent, qui est quand même un sommet que personne n'a fait depuis en France. Quel souvenir vous gardez du coup de Sydney? Il faut rappeler, en plus, c'est à Sydney, vous êtes à l'autre bout du monde, il y a le décalage horaire.
Mais je comprends tous ceux qui font les JO, là. D'hiver, c'est compliqué quand il y a un décalage horaire. On était la compétition qui durait sur les 15 jours de JO, donc c'était compliqué de nous suivre. Notre finale a lieu à 3 ou 4 heures du matin, donc peu de gens ont regardé. Donc finalement, un impact très réduit en France, alors que ça aurait dû être le summum du basket français.
Oui, c'est vrai que c'est reste quand même... Bon, après, ça reste quand même un monument.
Ça reste un monument, mais... Alors, je suis désolé, c'est peut-être parce que je l'ai gagné, mais je pense qu'il est plus important de faire une médaille d'argent aux Jeux Olympiques qu'un titre de champion d'Europe. Pour moi, parce que ça a plus de valeur. Parce que c'est mieux d'être deuxième du monde que premier d'Europe. Mais après, c'est qu'une notion personnelle. Et c'est vrai qu'on n'en parle plus très souvent, en fait. Et on l'oublie un petit peu. Et ça m'ennuie un peu. Chaque fois que l'équipe va aux Jeux Olympiques, on devrait dire, notre objectif, c'est d'essayer de faire comme ces vieux cons, là, qui en 2000 avaient ramené quelque chose.
Clairement. Alors, c'est vrai qu'en termes de médiatisation, la génération Parker a été beaucoup plus exposée que la vôtre, au final.
Ce qui est normal. Hein. Il y avait Tony Parker qui était là aussi, qui aidait beaucoup par rapport à cette médiatisation. Mais à l'époque, je suis pas sûr que la fédération ait fait ce qu'il fallait.
Et puis c'est pas la même époque médiatique aussi. C'est en vrai plus, qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de choses. Au moment, alors juste une autre question d'ailleurs sur les Jeux Olympiques, j'ai vu que Liao Ming jouait déjà à l'époque. J'ai découvert ça en préparant cette émission. Vous l'avez affronté ?
Je l'ai affronté. Et d'ailleurs, si vous regardez, si vous trouvez des images, je le contre deux fois, dont une fois où je le fais tomber par terre en le contrant. Et ça, c'est une vraie satisfaction.
Ah bah oui,
parce qu'en plus, pour une fois, il est plus grand que moi, lui. Donc, donc ça fait plaisir.
C'est vrai qu'il fait 2,28, hein, officiellement, quelque chose comme ça.
Bah, en tout cas, il est plus grand. Je ne peux pas dire de combien, mais suffisamment pour dire qu'il ne fait pas ma taille.
Et on peut rappeler aux auditeurs, il devait avoir 21-22 ans, il était très jeune.
C'est ça, mais moi, j'avais 23 hein, en même temps.
Oui, donc, c'est vrai. C'est vrai qu'il était... Mais c'est vrai que c'était avant sa carrière NBA, c'est donc ça. On a tendance à oublier qu'il était déjà là au JO et qu'il jouait déjà pour la Chine. Et vous en gardez quel souvenir, du coup, en dehors des contres, qui sont déjà un beau souvenir.
Honnêtement, un joueur incroyable. Par rapport à sa vitesse, un joueur de cette taille qui courait autant, moi j'avais jamais vu, et j'ai été très surpris au début parce que j'avais l'impression de courir vite moi pour l'époque, et en fait il courait au moins aussi vite que moi, voire plus, sauf qu'il était plus grand, plus jeune, pas de beaucoup, mais plus jeune, et donc vraiment très impressionnant.
Mais après on a vu malheureusement que physiquement ça a été dur.
Mais c'est, quand on est très grand c'est toujours beaucoup plus dur. J'ai eu beaucoup de blessures aussi.
Et alors à ce moment-là, quand vous jouez les Américains, notamment du coup deux fois au JO, vous avez déjà été drafté depuis un an.
Oui.
Vous vous dites, voilà, ces mecs-là, je peux jouer avec eux. En NBA, je peux y aller, je peux jouer avec ces mecs-là.
Honnêtement, les observateurs du basket américain avaient dit, ben, vu le tournoi qui est fait, il peut jouer, clairement. Finalement, ça m'a fait du bien, finalement, ce tournoi. Après, il y a eu le dunk qui a fait qu'ils parlent encore plus de moi. Mais par exemple, le fait que je domine Luc Longley, surtout, avait marqué les esprits en disant... Ben, ce garçon qu'on avait un peu enterré quand il était venu, finalement, il peut peut-être jouer au basket. Quoi.
Ce qui est lié, donc, on a parlé un peu des Knicks aussi. Vous jouez la Summer League, donc blessé.
Je reviens de blessure, ça faisait 7 mois quasiment. J'étais à peu près aussi gros que maintenant, donc pour vous dire que j'étais pas super bien.
Et donc là, à ce moment-là, c'est d'un commun accord que vous retournez en France ou
Non, eux me disent, bah, écoute Fred, tu vas faire tes gammes ici, on veut que tu restes là.
Ah, eux, ils voulaient que vous
restiez. Ils voulaient que je signe tout de suite. Moi, je me sens pas capable. Moi, d'accord. J'ai envie, si j'y vais, d'être en pleine possession de mes moyens. Je le suis pas. Je vais refaire une année. Fred, t'es sûr? On te propose, normalement, si j'avais 3 ans garantie, me proposer une 4e année garantie. Ouais. J'ai dit non. Parce que je le sentais pas comme ça. Après, erreur, pas erreur, on va pas ressasser le passé. Mais en tous les cas, c'est la décision que j'ai prise à cette époque-là.
Mais du coup, aujourd'hui, vous vous dites, c'est un truc que j'aurais bien aimé faire quand même. Ou alors, l'Amérique, bon, c'est pas forcément votre tasse de thé.
Alors, honnêtement, j'ai encore une anecdote. Je me rappelle que j'étais à l'hôtel, je vais pour prendre l'ascenseur, il y a une nana, une très jolie nana d'une trentaine d'années, une bimbo américaine, et elle est dans l'ascenseur, et je vais pour rentrer avec elle, normal, moi je veux monter dans ma chambre quoi, sauf que j'ai quelqu'un qui me retient et qui dit non, tu montes pas avec elle, donc la nana monte, et je lui dis mais pourquoi j'ai pas le droit de monter avec elle, bah tout simplement parce que si tu montes tout seul avec elle, tu risques d'avoir un procès sur le cul. Parce que c'est ce qui se fait le plus souvent. Elle va dire que tu es agressé dans l'ascenseur et tu vas avoir un problème. Alors honnêtement, c'est pas l'image du sport que j'ai moi.
Oui.
Donc franchement, ça me manque pas.
C'est un autre mode de vie.
J'avoue que ça m'avait vraiment choqué. Et je me suis dit, mais non, mais moi j'ai envie de prendre l'ascenseur quand j'ai envie de prendre l'ascenseur. Quoi. Ben, j'ai pas envie de me dire, il y a une jolie nana, elle va dire que je l'ai agressée. Non, j'agresse pas les gens. Moi.
Ouais, non, c'est vrai que ça reste très spécial. Dans le vestiaire sur SFR Sport, justement, vous avez dit, quand je regarde la NBA, je m'endors.
Alors,
je vous laisse préciser, vous avez le temps.
Voilà, c'est ça. Effectivement, il faut bien préciser parce qu'on m'est tombé dessus, mais grave. Non, mais c'est vrai, je ressens ça dans la saison régulière. Dans la saison régulière, certains matchs, les trois quarts des matchs, je m'endors. Parce que tactiquement, je trouve ça tellement faible. Moi, voir des mecs qui sautent tout le temps, ouais, c'est cool de temps en temps, oui. De temps en temps, ça me plaît. Mais sinon, ça me plaît pas. Tactiquement, je trouve ça faible. Après, dès que les playoffs arrivent, j'adore la NBA. La NBA, c'est le plus beau spectacle, c'est les meilleurs joueurs du monde. Et pour arriver en playoff, il faut avoir une vraie équipe et un vrai coach. À part Cleveland, mais ils ont un coach qui joue. Donc c'est un peu différent. Mais oui, je n'aime pas la NBA pendant une période, mais les playoffs, c'est la meilleure compétition du monde.
C'est un autre débat, mais je vous sens moyennement fan de LeBron James ou
alors... Ah, moi, LeBron James, j'adore. C'est mon joueur préféré. D'accord. Mais le coach qu'il a, pour moi, c'est une catastrophe.
D'accord, oui, donc c'est pour ça. Ouais. Le côté, c'est LeBron le coach.
Voilà, c'est ça, c'est pour ça. LeBron, et ben, d'ailleurs, j'ai entendu beaucoup de choses sur lui qui disaient que c'est un coach qui est sur le terrain, quoi. Il est meilleur que la plupart des coachs de NBA. Hein. Il y a quelqu'un qui disait ça, et je pense qu'il a raison. Effectivement, il a un QI basket hors norme.
Ouais, il a ça clairement au niveau du QI. Bah, il est plus proche. C'est vrai qu'on veut tout le temps le comparer à Jordan. Il est plus proche de Magic que de Jordan.
En fait, qualité physique de Jordan avec le QI basket de Magic un peu.
C'est pas mal.
Donc c'est pour ça que c'est un joueur que j'apprécie.
C'est pas mal. Et d'ailleurs, vous qui avez joué à l'intérieur au début des années 2000, comment vous voyez cette évolution de la NBA où maintenant c'est quand même une ligue où on tire beaucoup et très vite, alors que c'était une ligue très lente au moment où vous êtes drafté, hein, quasiment, puisque c'est le règne des Patty Wing. D'ailleurs, vous êtes drafté dans la franchise où Patty Wing est encore là. David Robinson, Hakeem Olajuwon sont encore là. Tout le monde est encore dans la ligue. Shaquille O'Neal est aux portes de ses premiers titres avec les Lakers. Et là, aujourd'hui, on est dans quasiment l'extrême inverse, avec d'une run and gun dans tous les sens et un nombre de possessions qui a été multiplié.
Oui, je n'aime pas du tout.
D'accord.
Forcément, je suis un vieux dinosaure. J'aime le basket de dinosaure. J'aime Joel Embiid. Pourquoi ? Parce que c'est quasiment un jeu de dinosaure qu'il a. Alors, évolué, hein, un dinosaure 3.0 avec la capacité de shooter, avec une vitesse que n'avaient pas forcément les joueurs d'avant, mais capable de jouer de haut panier. Quoi.
Ouais, ouais.
Des joueurs capables de jouer de haut panier, des vrais pivots, il y en a de moins en moins. Et moi, c'est ce que j'aime dans le basket, c'est ce que je sais faire. C'est logique que je transpose ce que je savais faire, en tous les cas, sur ce que je vois. Et c'est pas forcément ce qui me plaît. Par exemple, moi, Steph Curry, je déteste. Moi, pour moi, c'est des joueurs que je déteste le plus en NBA. Parce que je trouve ça, il a une super main. Et voilà, donc c'est chiant, quoi.
Ouais, donc c'est beaucoup, beaucoup de shoot. Et en effet, la technique et la finesse de haut panier, ça s'est perdu, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais on a gagné sur la finesse extérieure. Et j'ai l'impression que, bah, y a moins de contact. C'est moins. Quand je vois Golden State, moi je m'ennuie, j'aime pas du tout. En plus, c'est con, mais on sait que c'est qui va gagner à la fin, c'est Golden State.
C'est peut-être ça le problème principal de la NBA à l'heure actuelle d'ailleurs.
Ouais, et j'en discutais avec Stephen Brun et il me disait Kevin Durant, il a défoncé la NBA en fait. Parce qu'en allant là-bas, il a créé une super team, donc maintenant toutes les superstars veulent créer des super teams. Et ça marche pas tout le temps, c'est le moins qu'on puisse dire.
Non, c'est vrai qu'il y a des ratés. Et du coup, aujourd'hui, alors, si c'est pas Golden State, et là je parle global, hein, pas forcément NBA, qu'est-ce qui vous fait vibrer, du coup, qu'est-ce que vous aimez regarder dans du basket ?
Moi j'adore, mais vraiment j'adore, et encore une fois, je vais paraître corporate, mais je sais pas du tout ça, et je l'avais dit avant que SFR ait les droits, moi l'Euroleague, c'est... Je peux passer la soirée juste à regarder des matchs de Euroleague, tout simplement. Quand je vois Jasikevicius à Kaunas, le taf qu'il fait, l'équipe qu'il a pourtant, qui est une bonne équipe, hein, qui est une très bonne équipe, mais qui est normalement pas au niveau des autres, il fait un travail incroyable, tactiquement c'est fort, on conserve le ballon, on amène le ballon où il faut. Ben voilà, je suis pas super fan comme mec, mais j'aime le basket posé.
Non mais ça se défend, et d'ailleurs c'est toujours dans le vestiaire que j'ai regardé attentivement, du coup, vous aviez une bonne comparaison cinéma pour la NBA et l'Euroleague.
Ben moi je trouve que le basket américain, c'est les films à grand spectacle, pop-corn américain, et que l'Euroleague c'est un film d'auteur de qualité, hein, parce que je suis pas non plus un mec qui regarde des trucs trop compliqués et trop intello et trop bobo, mais un film d'auteur sympa.
Ouais, non, il y a une vraie différence en effet, en tout cas à ce niveau-là. Et encore une fois, hein, c'est pas tabou. Je sais que basket US ça fait beaucoup de NBA, mais vous avez le droit de pas apprécier Golden State.
Alors je travaille sur RMC et j'ai la chance de beaucoup travailler sur la NBA et j'apprends grâce à ça, parce que je ne veux pas arriver à l'émission nu. Donc je suis toute l'après-midi du lundi sur la NBA pour voir ce qu'il en est. Et je commence à aimer l'histoire de la NBA, comment ça se passe, les méandres de la NBA. Par exemple, ce transfert à 6 joueurs de Cleveland, enfin, je trouve ça merveilleux. Je trouve que tactiquement, c'est super intelligent. Mais après, au niveau du jeu, ce n'est pas mon truc préféré.
On va faire un petit break musical, Fred. Parce que, alors là, vous reconnaissez forcément la musique.
Mais bien sûr, forcément.
Voilà, bon, on a pris un truc un peu cliché pour cette rubrique qui s'appelle le 5 majeur. D'accord. C'est le moment d'annoncer votre 5 majeur. Alors, très simple, vous êtes un dimanche matin, vous allez jouer au basket avec des potes, vous avez le droit de choisir 4 de vos anciens coéquipiers. Quel est votre 5 majeur ?
Ouais, c'est pas facile. Moussanko.
D'accord.
Parce que je sais qu'en défense, il mettrait une grosse pression et que j'aurais pas à faire grand chose. Stéphane Rizaché d'un côté, Laurent Foires de l'autre. Et en poste 4, un mec avec qui on peut se marrer, Jim Bilba.
Jim Bilba, c'est très génération 2000 là.
Ouais, parce qu'en fait, je pense que c'est les gars avec qui je me suis le mieux entendu. honnêtement, si je devais faire un 5 remplaçant, entre guillemets, bon, en tout cas pour remplacer Jimmy Bass, je mettrais un Flo Pietrus sans problème.
Ouais.
Parce que c'est même esprit, même combativité, même. Voilà. Après, je mettrais Tony en poste 1. En poste 2, je mettrais Antoine Rigaudot. Et en poste 3, Nando De Colo. Parce que Nando De Colo. Même si c'est un. Enfin, c'est plus un 2, hein, mais je le mettrais en poste 3, juste pour le plaisir de l'avoir dans l'équipe.
Vous avez joué avec Nando De Colo ?
Non, pas du tout.
Non, ouais.
Justement. C'est pour ça. Lui, c'est pas mon pote. Enfin, c'est pas mon pote dans le sens où on se connaît pas vraiment, ouais. Mais quel joueur.
Ouais, on sent un truc quand vous en parlez. Moi, votre regard qui s'illumine.
En admiration.
Quel coach d'ailleurs pour tout ça ? Parce que vous en avez quelques-uns aussi, hein, Claude Bergeau, Tandjevic, enfin, il y a eu du monde.
C'est pas facile. Je dirais, pour moi, celui qui a été le plus grand coach, Boja Malkovic, je pense, parce que c'est lui qui a porté le premier titre européen au basket et au sport français. Faut pas l'oublier, donc Boja Malkovic.
Et alors, un autre petit 5 majeur tant qu'on y est, mais celui des joueurs que vous avez affrontés. Quels ont été les plus gros clients? Parce qu'il y a du monde aussi, hein. J'ai listé, il y a du Bodiroga, du Jasikevicius, Stojakovic, ça c'est rien que sur les jeux. Il y a évidemment tous les Américains que vous avez affrontés, il y a du monde en Espagne, il y a du monde en France. Quels sont les 5 gars comme ça? Vous n'êtes pas obligé d'avoir les 5 postes. Hein.
Poste 1, Jasikevicius, c'est sûr. Poste 3, parce que j'ai défendu directement sur lui, alors que c'était pas mon poste, c'est Bodiroga. J'ai défendu sur Bodiroga. Incroyable. Ensuite, j'ai défendu sur Dirk Nowitzki, donc je vais le mettre en poste 5. Même si c'était pas un poste 5, ouais. J'ai défendu dessus. En poste 4, Pau Gasol. Parce que j'ai défendu dessus aussi, que c'était une vraie galère. C'était une vraie galère. Et je suis désolé, j'ai encore mettre à l'intérieur un poste 5, Marc Gasol. Parce que lui aussi, j'ai joué contre lui et c'était aussi un plaisir de jouer contre lui. Des mecs super, sains, mais avec une qualité de basket incroyable.
Ouais, les frangins Gasol, c'est quand même.
Les frangins Gasol, c'est des super mecs. C'est ça. C'est vrai que de France, on a parfois l'image de l'espagnol un peu hautain, etc. Ces deux mecs, c'est des super mecs.
Il y a du client aussi, alors, hein, Jessica Vicious, Bodiroga. Ouais. Et alors, le pire à défendre, on va dire, chez les intérieurs, parce que c'est vrai que Bodiroga, c'était peut-être un peu plus exceptionnel, mais chez les intérieurs, c'est quoi? C'est les frères Gasol, le pire, parce que Dirk Nowitzki, ça doit être sympa aussi.
Est-ce que tu veux que je te dise vraiment qui? Paul Fortier. Je sais pas si tu te rappelles,
Paul Fortier,
un mec
non,
qui a joué
là, désolé.
À Cholet. C'était dans la première fois où je jouais à Limoges, donc en pro, et les mecs m'ont dit, Fred, faut que tu défendes sur ce gars. Je dis pas de problème, moi je défends sur n'importe qui. Je me racontais un peu, tu vois. Et à la fin du match, il a fini à 35 points.
D'accord.
Et mon coach m'a dit, eh ben écoute, lui, c'est un joueur, c'est un très bon joueur. Il faut pas sous-estimer. Et maintenant, tu sauras qu'il faut que tu défendes. Et c'est la première fois que je prenais un gros carton, j'ai pris 35 points par un mec.
Mais alors, qu'est-ce qu'il faisait qui vous a sorti comme ça?
Je sais pas. Il était lent, pas grand, il sautait pas haut, il avait rien. Sauf qu'il m'a défoncé. Et depuis, à chaque fois que je défendais sur quelqu'un, je dis, non, t'en prendras pas 30, t'en prendras pas 30.
C'est marrant de se dire, alors, avec tout le respect qu'on peut avoir pour lui, et on espère qu'il nous écoute, mais de se dire donc la carrière de Fred Weiss, un des plus grands défenseurs d'Europe, a été inspirée par Paul Fortier.
Ah, mais en plus, j'étais avec Jim Bilba dans l'équipe et Jim m'a chambré pendant je sais pas combien de temps après. Enfin, affreux.
En tout cas, il sera content de savoir que vous pensiez à lui à chaque fois que vous défendiez un Gasol ou un Nowitzki.
Dès que c'était un gros qui était capable de marquer des points, j'avais peur parce que je me dis, si j'en reprends 30 comme contre Paul, là, c'est pas possible.
On va sortir des 5 majeurs, on va revenir un petit peu à votre carrière. Vous avez côtoyé la génération Ciné, on en a pas mal parlé, vous en avez parlé dans votre 5 majeur. Vous avez aussi côtoyé la génération Parker. Vous êtes un peu un témoin privilégié parce que vous avez vraiment été assez longtemps avec les deux. Au final, vous êtes resté quand même quelques années en équipe de France avec Tony Parker et toute cette génération-là qui commençait un peu. Vous avez constaté une approche différente entre les deux groupes? Il y avait une ambiance différente? Il y avait...
Alors clairement, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais assez jeune pour jouer avec la première génération, mais j'étais pas trop vieux encore pour jouer avec la deuxième, et donc c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre ces deux époques magnifiques. Et en fait, le seul truc, c'est que la génération Parker, eux pensaient que c'était possible. Nous, on a eu une médaille parce qu'on était meilleurs, parce qu'on avait une vraie bonne génération, mais pas vraiment parce qu'on y croyait. On allait un peu aux Jeux Olympiques, par exemple, les mains dans les poches. On a fait quatrième au championnat d'Europe. La génération Parker aurait été pas championne d'Europe peut-être, mais au moins sur le podium, minimum. Nous, on pensait pas qu'on était capable de le faire. On avait ce sentiment d'être moins fort que les autres que n'avait pas la génération Parker. Mais la génération Parker disait, on va les battre. On va être champion d'Europe. À chaque match, c'était, on va être champion d'Europe. on n'a pas tout le temps été. Ils ont. Honnêtement, je suis un peu déçu parce que j'aurais dû être la première génération championne d'Europe parce qu'en 2005 à Belgrade, on finit troisième alors que on mène contre la Grèce à une minute de 9 points et si on passait ça, on jouait contre Anne et on était champion d'Europe. Mais ils y croyaient quoi. Cette confiance en eux, cet esprit américain.
Oui, c'est ça. En fait, c'est le côté pour eux, tout était possible.
C'est ça, tout était possible. Et ça, c'était merveilleux. Pour moi, c'était une vraie claque. Je me suis dit, mais ces gosses là. C'était des gosses par rapport pour moi, même si finalement on n'a pas tant d'écart que ça.
C'est ça.
Mais pour moi, c'était quand même des gosses.
C'est ce que j'allais dire. Vous aviez cette image d'ancien, alors que finalement, il n'y a pas un énorme écart.
Avec Tony, on doit avoir 5 ans d'écart. Mm. Et pourtant, pour moi, c'est un gamin, quoi. Enfin, c'était un gamin à cette époque-là. Et les mecs étaient assumés, assurés. T'avais Boris qui te parlait comme s'il jouait depuis 35 ans. Un grand respect pour cette génération, vraiment.
Ce début de génération, d'ailleurs, vous le vivez de l'intérieur. Ils sont. Vous disiez très confiant, mais parfois de l'extérieur, ils étaient un peu perçus justement comme arrogants, ou c'était ressenti. Est-ce qu'ils se sont assagis avec l'âge aussi?
Non, je pense que ça pouvait être perçu comme ça, mais ils n'y étaient pas. Ils étaient juste confiants. Et c'est ça qui leur a permis d'arriver où ils sont arrivés, parce qu'ils avaient confiance en eux. En fait, le problème en France, c'est que quand on a confiance en soi, on est arrogant. Non, on a confiance en soi. C'est deux mots complètement différents.
Et ce match, j'avais pas prévu d'y faire référence, mais du coup,
non, mais je pleure
de passer par là. Mais ce match contre la Grèce,
forcément une énorme déception. Enfin, tu te dis que j'aurais pu faire partie de l'équipe qui était la première championne d'Europe de l'histoire du basket français. Et pour trois bêtises, et parce que c'est les Grecs et qu'à cette époque-là, c'est une génération incroyable, et que nous, justement, on n'est pas encore complètement sûr de nous. Même si on a certains joueurs qui le sont, on n'est pas suffisamment sûr de nous, ben on perd ce match et on se retrouve à aller en jouer pour la troisième place. Sauf que d'habitude, l'équipe de France, elle perdait. Là, on en met 30 aux Espagnols. Alors, effectivement, c'est l'Espagne qui a gagné après, qui était encore jeune, et c'est pour ça aussi qu'on a réussi à faire ça. Mais aussi parce qu'on était concentrés et qu'on y croyait encore, qu'on n'a pas baissé la tête. N'importe quelle autre génération française aurait baissé la tête.
Après, cette défaite, elle est formatrice aussi, quand même, pour ce groupe.
J'ai lu beaucoup d'articles de cette génération, justement, des Flo Pietrus, des Mike Gelabal, tout ça, et ils disaient, l'histoire, elle a commencé là, en fait. Quand on va à Novi Sad, on gagne à Novi Sad, déjà, ce qui est incroyable, battre les Serbes en Serbie, ce qui est monstrueux, et ensuite enchaîner en gagnant cette médaille après avoir une grosse désillusion la veille, ça a commencé là pour eux. Donc, ça me fait plaisir d'avoir été une des personnes, avoir été témoin privilégié de ça.
Alors là, on est en 2005, on a parlé un peu de Carter, des Knicks, mais encore une fois, après tout ça, vous êtes en Espagne, et au final, ce qui va précipiter des moments un peu plus difficiles pour vous, c'est plutôt un événement familial, et au final, c'est moins connu, en tout cas beaucoup moins connu que ce qui s'est passé avec Vince Carter. Je ne sais pas si vous pouvez en dire un mot ou pas.
J'ai pas de problème. J'ai eu un enfant autiste, Enzo, et voilà, je l'ai très mal vécu. J'ai fait une grosse dépression, une énorme dépression. J'ai même tenté des choses qu'il ne faut pas tenter d'ailleurs, deux fois, parce que j'étais perdu, que j'avais la chance jusque-là que tout ce que je touche réussisse à peu près. Et là, c'était la chose qui me comptait le plus à mes yeux qui ne réussissait pas. Donc j'étais complètement déstabilisé. Je ne me cherche pas d'excuses, c'est complètement débile, je n'avais pas le droit de faire ça. Mais ça s'est passé, donc j'assume, tout simplement.
Et alors, vous en avez parlé notamment sur SFR Sport, hein, mais vous disiez, grosso modo, il y a eu 10 ans de reconstruction derrière. Parler de tout ça publiquement, c'est aussi une manière d'exorciser, de se refaire, ou pas du tout?
Je ne sais pas si c'est une manière d'exorciser, mais c'est en tous les cas de montrer que je n'ai pas honte, que c'est des choses que j'ai vécues, qu'il y a d'autres personnes qui doivent vivre aussi, forcément, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et pour personne. Et j'ai juste envie de dire, voilà, moi aussi j'ai eu des galères et j'essaye de m'en sortir comme tout le monde, quoi. C'est pas parce que tout le monde croit que pour nous tout est facile, tout se passe bien parce qu'on est sportif de haut niveau. Non, on a des galères et il faut assumer, c'est tout.
Mais d'ailleurs, sans rentrer dans les détails, mais ça peut être aussi un facteur difficile pour quelqu'un qui est soumis à la dépression, c'est aussi ce décalage entre l'image qu'ont les gens de lui et la situation dans laquelle il se trouve.
Ça, c'est affreux parce que les gens me disent, mais pourquoi t'es malheureux? Tu gagnes bien ta vie, t'as de l'argent, tu ne fais pas un métier, tu fais le sport que t'aimes, c'est ta passion. Et je dis oui, mais la vie c'est un peu plus compliqué que ça. Et heureusement que ma vie se résume pas au basket. Même si j'adore ça, même si quand je me lève, le premier truc que je fais, je regarde les stats, je regarde mon Twitter pour voir s'il y a des nouveautés. Ouais, mais j'ai d'autres choses dans la vie. Mon fils par exemple.
Et puis c'est vrai que c'est cette injonction permanente de dire mais tu devrais être content, tu devrais être content, c'est le pire.
Mais ça c'est affreux. Ouais. Franchement, ça m'énervait au bout d'un moment, mais bon, c'est comme ça.
Et d'ailleurs, vous le disiez, il y a un tabou et il ne faut pas en avoir honte. Vous vous rendez compte, alors c'est peut-être pas conscient ou volontaire, mais vous vous rendez compte que ça aide les gens aussi d'en parler ?
Honnêtement, c'est un souhait. Après, en tous les cas, que les gens entendent un discours, parce que c'est vrai que c'est ce genre de discours qu'on n'entend pas souvent. Mmh. Moi, j'aurais peut-être eu besoin de l'entendre. Et donc, je me dis que simplement exprimer, sans porter de jugement, sans dire j'ai été un abruti de tenter ça, mais sans dire que je suis meilleur que les autres, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Au contraire, je pense qu'il y a plein de gens qui sont sortis bien mieux que moi et qui ont géré ça bien mieux que moi. Mais simplement que bah, parfois c'est compliqué et que c'est compliqué pour tout le monde, quoi. Mmh. Qu'il n'y a pas des mecs qui s'en sortent mieux que d'autres, c'est la vie.
Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes apaisé, vous êtes heureux, bien.
Ouais, je suis pas mal.
Bon, ça se voit en tout cas. Ça se voit. C'est vrai qu'on est en audio, faut le dire. Depuis que vous êtes rentré quand même dans le bureau, on a un Fred Weiss souriant.
Et ça va surprendre tout le monde parce que dès que je prends en photo, tout le monde me dit mais tu souris jamais. Je sais c'est pas. Vrai. Alors je préfère prévenir. Je ne sais pas prendre une photo où je souris, mais ça veut pas dire que je souris pas. Et puis je viens de l'Est, moi. J'ai un visage fermé. On dirait toujours je fais la gueule. Je fais pas la gueule. Je suis souriant à l'intérieur.
Bah écoutez, en tout cas, nous depuis, on peut le dire aux auditeurs.
Mais parce que je suis bien ici.
Bah tant mieux. Alors tant mieux. Non mais c'est vrai qu'on peut le dire aux auditeurs depuis que Fred Weiss est rentré. Voilà, ça sourit, on a parlé immobilier, on a parlé plein de choses avant de prendre l'antenne, on a déjà parlé beaucoup beaucoup de choses. Petite séquence pour partir sur tout un autre thème, on va remettre un petit jingle un peu cliché.
La jingle, voilà. J'adore.
On a un petit tapis sonore, parce que, alors on n'a pas donné de nom, l'autre séquence c'était 5 majeurs, là c'est la séance un peu... Autre dimension, je ne sais pas si c'est la quatrième ou je ne sais pas comment on appelle ça.
Ça c'est X-Files.
Ça c'est X-Files. Ouais. En fait, on est dans une autre dimension, Fred, c'est le moment où on fait un petit détour. Une dimension où le basket n'existe pas.
Ouais, c'est dur déjà.
C'est dur.
Ouais.
Alors, si le basket n'existe pas, qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire de vos journées ? Vous avez le droit à tout, hein. Si vous me dites je veux être boulanger, je veux être, je dis ça pour moi parce que je ferais ça.
C'est vrai. C'est super comme métier, c'est extraordinaire. C'est mais après moi c'est le lever tôt qui me pose un problème.
Oui, alors pareil, c'est pour ça que j'ai fait le journaliste plutôt.
Mais c'est vraiment très difficile parce que moi je suis pas un grand fan de sport en fait. C'est assez paradoxal, mais j'aime que le basket. Je me lèverai pour aucun autre sport.
Après, je pose la question parce que vous avez beaucoup d'autres activités. Vous êtes entrepreneur. Alors, il y a un lien avec le basket, mais vous avez quand même beaucoup de choses.
Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup d'activités, mais qui sont souvent liées au basket. Alors, un truc qui me passionne, justement, on parlait d'immobilier. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. J'adorerais m'investir dans ça. Donc, je pense que j'aurais été agent immobilier.
Un Stéphane Plaza de 2018.
Ouais, c'est ça. Avec moins de style, parce que le mec est très fort. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse, les taux d'intérêt, négocier avec les banques, tout ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc je pense que j'aurais fait ça. Ouais.
D'accord, et d'ailleurs, à quel moment vous avez su que vous vouliez être basketteur professionnel ? Parce que forcément, vous êtes très grand, donc est-ce qu'on vous a poussé ou pas, ou est-ce que c'était tout à fait naturel ?
Alors j'ai voulu être basketteur professionnel à mon deuxième contrat à Limoges, non pas le premier qui était déjà professionnel.
D'accord.
Parce qu'en fait, c'est assez simple, quand j'ai signé au Limoges CSP, ma maman m'a dit « si tu n'as pas ton bac, tu peux toujours rêver ». J'ai dit « oui, mais maman, je vais gagner plus que vous deux réunis ». Elle dit « quelle journée à foutre ». Ta sœur est ingénieure en génie physique, tu vas faire tes études et minimum le bac. Donc j'avais un peu la pression et donc elle m'a dit de toute façon tu vas faire 2 ans à Limoges et tu reviendras en Lorraine en trouvant un taf. Donc je pensais faire 2 ans à Limoges, donc je pensais pas être professionnel, je pensais gagner ma vie pendant 2 ans en basket, je trouvais ça fantastique déjà. Et voilà, c'est tout. Donc non, j'ai réalisé quand au bout de 2 ans, je me dis ben ça me plaît, les mecs veulent me garder, je vais rester là. C'est le boulot le plus facile du monde, je joue à ce que j'aime.
D'accord, mais alors, quand vous dites 2 ans, vous aimiez quand même déjà ça avant.
Ah non, mais moi j'adorais le basket. D'accord. Mais j'étais à l'INSEP même avant. Donc oui. Je jouais au basket sans être payé, mais je pensais pas être professionnel.
Vous avez commencé à quel âge du coup ?
J'ai commencé, je sais pas, 9-10 ans. J'ai fait du mini basket moi à l'époque même.
D'accord,
je suis fan depuis toujours.
Ça veut dire quoi le mini basket pour Fred Weiss ? Parce que vous deviez pas être tout à fait mini quand même. Bah, à
en fait, le mini basket c'était génial parce que les gars m'envoyaient le ballon et je faisais que des dunks en fait.
Ça c'est le fantasme.
C'était plutôt pas mal. J'étais en équipe de Lorraine de mini basket, je sais pas pourquoi.
Ça aurait dû être ma première question pour vous en fait. Au tout début de l'émission, ça aurait dû être ça fait quoi de pouvoir dunker ? Parce que c'est un truc.
Franchement, mais je sais pas, je dunk depuis assez longtemps. Dans toutes les catégories où j'ai joué, je dunk. Donc la première fois c'est extraordinaire. Sauf que la première fois, tu peux le faire que pendant l'échauffement des matchs. Et comme tu te crames, t'es mort après pour le match, tu le fais plus en fait. Et tu fais que des dunks, tu fais des dunks pour faire le malin pour dire hey, les gars, je dunk moi. Sauf que après, t'es mort.
C'était une autre question. Est-ce que les dunks, ça aide avec les filles en fait ?
Je sais pas, je crois un peu. Hein. Mais j'aurais tout essayé, tu sais, c'est pas facile.
Ça explique.
Les temps sont durs, je viens de Lorraine, moi, donc les filles, c'est pas facile.
Quand même. Bon, on va revenir un petit peu, on va sortir de X-Files. Ben voilà, le tapis sonore est terminé, ça tombe bien. Vous êtes donc consultant, on l'a dit, pour SFR, vous êtes revenu à Limoges. Tout ça, c'est aussi des choses qui ont permis de retrouver un équilibre, de retrouver le sourire et de.
Mais paradoxalement, j'aime beaucoup bouger, mais j'aime bien savoir où je vais. J'aime bien avoir un point de chute. Et donc, voilà, Limoges est venu assez logiquement. J'ai mon fils qui est là-bas, de toute façon. Donc, ça paraît pas illogique. J'ai ma société aussi de textile, qui s'occupe entre autres du Limoges CSP et qui a plusieurs clubs pro en ligne de mire, j'allais dire. Donc, c'est plus logique pour moi, ouais. Et puis, c'est l'endroit que je connais le mieux en France, réellement.
Ouais, on va en parler de Big Sport. Mais du coup, c'était aussi ça que je me demandais, parce que vous avez tellement d'activités. Est-ce qu'il y en a une dans laquelle vous vous voyez particulièrement à l'avenir, ou alors est-ce que justement tout est ouvert et vous verrez aussi selon ce qui se passe? Est-ce que vous voyez consultant basket pendant 20 ans?
Moi, tant qu'on voudra de moi, je serai là. J'adore être consultant de basket, c'est un moment extraordinaire. On est payé pour dire ce qu'on voit, et ce que je vois, c'est un truc que j'adore. Il y a quand même pire comme métier. Donc non, c'est autant qu'ils voudront de moi, je serai là, bien évidemment. Après, je sais malheureusement que ça peut tourner, donc j'ai d'autres activités qui sont plus régulières, j'allais dire. Et donc c'est vrai que le textile avec Big Sport, par exemple, c'est quelque chose qui m'intéresse. Aller voir les clubs, discuter avec eux. L'avantage de mon métier de consultant, justement, c'est que je vais dans les clubs, et donc ça me permet de rencontrer les gens, de voir les maillots qu'ils ont, et de leur dire « ils sont pas beaux, je peux faire mieux », par exemple. Même si c'est pas vrai, mais c'est un peu le bagou, tu vois, t'es obligé.
Faites attention, là, vous êtes en train de... Bientôt, SFR, ils vont vous dire qu'il y a conflit d'intérêts, que vous utilisez déplacements
pour... Non. Par contre, je leur ai expliqué, je leur ai posé la question si ça les dérangeait que je fasse ça. Ils m'ont dit « non, il n'y a pas de problème, c'est ton activité, il n'y a aucun souci ». Moi, c'est pas parce que je suis... fournisseur, j'allais dire, de maillots que je suis plus sympathique. D'ailleurs, à Limoges, on me dit même que je suis un peu dur avec eux, alors que pourtant, c'est moi qui fais leurs maillots.
Mais alors, ça, de toute façon, consultant, vous allez être pour et contre toutes les équipes selon tout le monde.
Exactement, mais moi, je préfère ça. Moi, j'aime que quand je vais à Pau, les gens sont contents de me voir. Alors qu'à Pau, normalement, on me déteste. Mais ils sont contents de me voir parce qu'ils savent que je vais traiter Pau comme n'importe quelle autre équipe de LNB. Non, pas de LNB, de Jeep Elite.
Ah oui,
ça a changé.
C'est vrai.
Mais voilà, ça c'est ma fierté, c'est de me dire qu'à Pau ils savent que je vais être neutre.
De toute façon, le problème, à mon avis, c'est quand il y aura plus que les supporters d'une seule équipe qui vous feront des reproches. Si tout le monde vous fait des reproches, c'est que vous faites à peu près bien le boulot.
Ouais, c'est ça. Mais pour l'instant, ça va.
Voilà. Tant que tout le monde est à peu près à part égal dans les reproches, vous êtes pas mal. Vous parliez de Big Sport, donc du coup, c'est l'équipementier du CSP Limoges. Le logo.
En Eurocoupe uniquement. Hein.
En Eurocoupe.
Pour l'instant, on est en train de négocier pour voir si on peut étendre à toutes les compétitions. Pour l'instant, c'est l'Eurocoupe.
Et alors, le logo, j'avais vu, est inspiré par votre médaille olympique.
C'est ça.
D'accord.
Oui, c'est ça, parce qu'on savait pas trop quoi faire. Et je peux vous raconter un peu l'histoire de Big Sport. En fait, c'est venu parce que j'ai créé des camps de basket sous forme d'association, parce que mon fils est autiste. Et c'était une volonté de notre part de pouvoir redonner de l'argent. Donc on fait ce camp, on forme des jeunes, et avec l'argent qu'on récupère, on investit pour l'autisme, on donne à son IME par exemple, ou à d'autres IME, à d'autres de centres pour enfants autistes. Donc ça, c'était une grande fierté. Sauf que je cherchais un partenaire textile qui me livrait toujours une journée avant le camp. Donc ça me donnait des sueurs froides toute la nuit, j'étais pas bien du tout. Et donc j'ai préféré créer ma propre marque. Et de fil en aiguille, les gens se sont intéressés et j'ai pu me développer un peu plus.
D'accord, oui. Donc c'était justement une de mes questions, c'était de savoir comment on se retrouve à faire des maillots.
Oui, mais c'était pas du tout prévu au départ. Hein. Mais c'est quelque chose qui est passionnant parce que j'ai la chance de voir des clubs professionnels, des clubs amateurs. Et finalement, la problématique elle-même, le délai, la résistance du produit et aussi la coupe un petit peu finalement.
Mais le style, c'est très dans l'actu d'ailleurs, puisqu'il y a un compte Twitter, je crois que c'est What If Basket, qui s'est créé, qui a fait beaucoup de bruit.
What If est un partenaire à nous.
Voilà. Et alors j'ai vu que ça s'était beaucoup rapproché. À l'époque, Fred Forte avait été un des premiers à revenir vers eux, si je dis pas de bêtises.
Alors exactement, il y a eu un article justement qui est passé sur poblanc.com où Romuald, fondateur de What If, a dit Fred Forte m'a appelé même pas une heure après avoir vu le tweet. Et deux minutes après, j'ai Fred Weiss qui m'a appelé dans la foulée parce que lui aussi, ça l'intéressait. Oui, dès qu'on a vu ce qu'il était capable de faire, on s'est dit, c'est ça qu'on veut pour la LNB, l'ancienne LNB. Et j'ai dit, je vais avoir du mal, la Jeep Elite.
On est obligé de dire Jeep Elite maintenant?
Oui, parce que la LNB, ça n'existe plus du tout. Hein.
D'accord.
C'est un naming complet où ça s'appelle Jeep Elite et c'est pas évident.
Bon, on a vu sur Twitter que vous aviez déjà testé les voitures.
Oui, mais premier jour où on annonce ça, voiture de loc, Jeep.
Mais c'était un hasard, c'est ça.
C'était un hasard, oui, complet.
C'est un hasard. Bon, mais oui, donc vous disiez pour le développement donc avec What If, c'est vrai qu'il y a des choses à faire en termes visuels.
Ben, Honnêtement, la LNB, l'ancienne LNB, avait un problème de poussière. Pour être le moins négatif possible. L'image du basket était normalement jeune, active, et c'est pas ce qu'elle retranscrivait sur les parquets. Donc, à notre petite échelle, enfin surtout Romuald qui est bien meilleur que moi, mais moi, en ayant la volonté de créer des maillots, ben, on essaye de dépoussiérer ça et justement que ça soit, voilà, que ça soit funky un petit peu, parce que ça a besoin d'être funky le basket. Et je pense que Romuald est vraiment très très fort.
Vous pensez que ça peut attirer de plus en plus de clubs là
Bah, j'ai quelques contacts.
Ouais.
J'ai quelques contacts.
Ah, c'est vrai que ce serait pas mal. Ça fait partie quand même, vous le disiez, de l'identité visuelle. Les maillots des fois un peu chargés en sponsors et assez.
Ouais,
assez
mais lourd, alors là, ça, je suis d'accord. Je comprends la problématique des gens en disant ouais, il y a beaucoup trop de sponsors, c'est compliqué. Les clubs de basket ont du mal à survivre.
Il faut vivre.
Les subventions baissent de plus en plus. Vendre un placard sur un maillot, et ben ça rapporte 30 000, 40 000, 50 000 euros peut-être. Et ben c'est un joueur. Et donc, je sais, moi aussi ça me désole, mais malheureusement c'est la loi du marché.
Oui, non, après c'est sûr qu'il y a un équilibre entre les deux.
Il y a un équilibre à trouver. Après peut-être qu'on est allé trop loin, mais il faut revenir à un équilibre pour que les sponsors soient contents, que les gens soient contents. Et qu'on ait quelque chose d'une identité visuelle intéressante.
Oui, c'est ça. Mais c'est ce qui est bien fait avec Wattif d'ailleurs, c'est que les sponsors sont intégrés.
C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais il s'est pensé. Enfin, j'en reviens à Romuald, on va croire qu'on est ensemble, on n'est pas du tout en couple ensemble.
Non,
s'entend très bien, mais j'adore ce qu'il fait. Enfin, il a tout compris, il réfléchit pendant. Enfin, il n'a pas une idée en 30 secondes, il réfléchit. Il s'imprègne de l'image du club pour proposer quelque chose.
Et alors, vous avez donc Big Sport pour les maillots, mais il y a aussi Big Event, Big Field.
Oui.
Donc vous faites plein de trucs en fait. Bon,
ouais,
comment vous avez le temps de faire tout ça?
Franchement, c'est pas évident tous les jours. J'avoue que la journée est pas.
Donc et Big Event, c'est de l'événementiel, et Big Field, c'est des locations de terrain.
Exactement. Donc la location de terrain, on a quelqu'un qui s'occupe vraiment de ça, et je m'en occupe quasiment pas. Big Event, on fait surtout une sorte de club des entreprises. Et au sein de ce club des entreprises, on essaie de faire du business, comme ça se fait très souvent, mais surtout autour des valeurs du sport. Donc on les invite souvent à Beaublanc, on va voir des matchs, ce qui permet d'avoir une vraie synergie entre les entreprises et les hommes, parce que c'est important, les hommes aussi. Les hommes avec un grand H, hein, je veux pas qu'on me traite de sexiste. Donc ça c'est très intéressant, franchement c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et après j'ai un associé en or, Yann Nouveau, qui s'occupe de toute la partie textile, qui va démarcher les clubs, qui travaille comme il faut. J'avoue que les journées sont parfois un peu compliqué, parce qu'en plus je travaille pour un site internet de Paris. Je pensais que ça serait une vraie rigolade de faire les paris, et finalement comme j'ai tellement peur que ça se passe mal, je suis dedans à fond, et ça me prend énormément de temps aussi, donc entre ça, entre SFR, la NBA que je dois apprendre, j'avoue que oui.
Il y a Basket Europe aussi d'ailleurs.
Basket Europe aussi, oui.
Avec lequel vous travaillez, donc vous avez pas Basket mal de Europe, choses dans les médias.
Basket Europe c'est très intéressant, vraiment ça me plaît beaucoup, parce que ça me permet de montrer qu'un ancien sportif peut écrire aussi. Donc au début, on m'aidait à écrire, c'est-à-dire que en gros, on avait une discussion et à partir de là, on écrivait. Et de plus en plus, on tend à ce que ça soit moi qui écris vraiment les articles de bout en bout, quoi.
Après, on parle de tout ça comme, on va pas dire de loisir, mais comme si vous faisiez des choses en plus. Après, il faut aussi que les gens conçoivent que c'est important aussi pour un basketteur d'avoir une reconversion. C'est pas les salaires du foot, c'est pas donc il faut
non,
aussi.
Non, c'est sûr. Alors honnêtement, j'ai eu la chance de bien gagner ma vie et d'avoir des placements plutôt corrects. Donc c'est pas une absolue nécessité dans mon cas. C'est mieux parce que franchement, ça arrondit bien les fins de mois et c'est plutôt intéressant. Mais surtout pour le plaisir. Moi, j'aime vraiment ce que je fais. C'est pas un choix par défaut. Toutes les activités que j'ai, c'est quelque chose que j'aime.
Et après, il faut quand même aussi s'occuper l'esprit de toute façon après sa carrière.
J'ai tenté de ne rien faire pendant 2-3 ans. J'ai pris 50 kilos et j'étais pas très heureux. Donc, alors je suis un peu mieux physiquement. J'ai perdu du poids là. C'est pas encore ça. Je sais, vous me regardez, mais c'est pas encore ça.
Non,
mais je suis en travail sur ça et je m'occupe l'esprit et je m'amuse.
Et justement, parce que vous avez peut-être eu beaucoup d'exemples de camarades qui ont peut-être eu du mal, justement, après leur carrière. On parlait, alors pas forcément jusqu'à la dépression, mais ça doit être quand même très dur à gérer de se retrouver à 35 ans et de se demander ce qu'on doit faire, quoi.
Ben, j'ai eu Jim Bilbain. Jim Bilbain est un exemple. Jim Bilbain est quelqu'un d'extraordinaire, qui fait trop confiance aux gens en général, qui est trop gentil et qui a eu des problèmes à trouver sa vraie voie. Il a voulu être assistant coach. C'est pas son style, c'est pas son truc. Donc là, il travaille pour la mairie de Cholet et je suis content pour lui parce que je pense que dans ça, il peut vraiment être intéressant.
Et alors, une petite question d'ailleurs, c'est un des articles qui vous avait beaucoup remis sur le devant de la presse médiatique. C'était une interview pour Street Press que vous aviez donnée en 2014, je crois, où c'était, et Le Monde avait fait un portrait aussi, où vous étiez dans un débit de tabac à Limoges.
Oui.
Est-ce que vous travaillez encore un peu là-bas ou pas du
Honnêtement, j'y travaille plus. J'ai toujours des parts dans ce bureau de tabac, mais j'y travaille plus.
C'était pour savoir si les gens pouvaient encore aller vous rencontrer, parce que les articles disaient que justement vous faisiez beaucoup la conversation c'était très animé.
J'y étais très souvent, et justement, c'est pour ça que j'ai été d'accord avec le site de Paris en ligne, parce que je faisais beaucoup de paris avec les gens. On travaillait beaucoup sur l'auto sportif et franchement on s'amusait bien et j'y étais très souvent parce que j'avais pas d'autres activités qui me plaisaient et qui me prenaient du temps. C'est vrai que là je suis tellement souvent sur Paris ou en déplacement que si en plus je faisais ça je serais mort.
C'est vrai que je vous demande ça après avoir fait la liste de tous les autres trucs que vous faites, donc
mais ça manque un peu hein, parce que le contact avec les gens, je trouve que travailler dans un bureau de tabac c'est comme faire un spectacle en live tous les jours. Parce qu'on a un public, on peut rigoler. Ce bureau de tabac, surtout, avait presque 3000 personnes qui venaient les dimanches. Donc imaginez 3000 personnes devant vous, à la queue leu-leu, on pouvait dire des bêtises, des chambrer, se vanner mutuellement. Un truc extraordinaire.
Et c'est vrai que c'est paradoxal, parce que vous avez joué dans des salles où il y avait 10, 15, 20 000 personnes, et vous êtes un élément silencieux, finalement. Il n'y a pas d'interaction avec ces
complètement,
gens-là.
Complètement. Et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir cette interaction. Moi, je suis un garçon timide au départ. Je sais que ça ne se voit pas, mais je suis très timide au départ. Et ça m'a beaucoup aidé, en fait.
Et un petit mot pour terminer, Fred, pour quelqu'un qu'on a évoqué déjà plusieurs fois dans l'émission, qui nous a quitté malheureusement fin 2017, c'est Fred Forté. Ouais. Vous êtes sur Limoges, vous le connaissiez bien. Ça doit laisser quand même un trou et un vide assez impressionnant dans la ville actuellement.
Alors honnêtement, moi ça a été très dur, parce que même si on n'était pas les meilleurs amis du monde, parce qu'on ne se voyait pas très souvent réellement, Fred c'est quelqu'un pour qui je suis venu quasiment au CSP, parce qu'il était champion d'Europe en titre, et quand on m'a parlé du CSP, j'ai pensé à Richard Dacroy, à Fred Forté, à Jim Bilba, en gros. Donc déjà il m'a fait venir une première fois. Il m'a fait venir une deuxième fois à la fin de ma carrière en me disant « tu vas jouer alors que ce n'est pas prévu ». Donc finalement, ce garçon a réussi à me faire signer deux fois dans le même club. Et c'est lui qui m'a permis d'être le fournisseur officiel de l'équipe en Eurocoupe. Donc c'est quelqu'un pour qui j'avais du respect. C'est quelqu'un, quand j'étais à côté de lui, je me sentais petit. Parce que c'est quelqu'un, je pense que c'est le garçon le plus intelligent que j'ai rencontré de ma vie. Et ça fait bizarre, normalement, même si je suis timide, j'ai beaucoup de chat. Je peux parler avec tout le monde sans problème. Et quand j'étais à côté de lui, j'écoutais. Parce que déjà, j'avais peur de me faire chambrer si je parlais. Et en plus, tout ce qu'il disait était intelligent. Donc c'est quelqu'un qui manquera forcément au basket. Je pense qu'à Limoges, Youri, son disciple, a repris la présidence. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que c'est vraiment en droite ligne ce que voulait faire Fred. Donc à partir de là, je pense que c'est une bonne chose pour Limoges, que ça continue comme ça. La continuité est importante à Limoges. Personne ne pourra remplacer Fred Forté, c'est clair. Mais je pense que Youri pourra contribuer à ce que ça soit moins difficile.
Je trouvais qu'il était quand même important d'en dire un mot, parce que ça.
Non,
que
mais
c'est
bien sûr. Mais honnêtement, ça a été un peu dur quand même. Cette fin d'année a été un peu compliquée, parce que, comme vous savez, j'ai tendance à la dépression. Même si je suis très en forme en ce moment, j'ai eu beaucoup de mal. Enfin, heureusement qu'on m'a beaucoup soutenu. J'avais besoin de ce soutien parce que c'était difficile.
Oui, non. Attendez, on a souri pendant trois quarts d'heure. Je voulais pas quand même vous plomber le moral. Non, mais c'est vrai que c'est aussi compréhensif. Et alors, je vais pas du tout prétendre l'avoir connu, parce que c'est pas le cas. Mais l'ayant croisé une seule fois, c'est vrai qu'il avait une joie de vivre et il était très sympathique, très expressif. Et c'est vrai que ça.
Je connais personne de plus taquin.
Voilà. Ouais,
déjà, je connaissais personne de plus taquin. Et encore une fois, c'était fin et on pouvait pas répondre. Et j'adorais discuter avec lui. Enfin, j'adorais qu'il me parle, parce que moi, comme je disais, je parlais pas beaucoup parce que je savais pas quoi dire d'intelligent.
Voilà, mais je trouvais que c'était important d'avoir une pensée pour lui.
Je le prends pas mal du tout, mais ça m'a fait du bien, au contraire, d'expliquer que ça a été un peu dur finalement quand même.
Bon, et ben, en tout cas, on va terminer là-dessus. Fred, merci beaucoup d'avoir été le premier invité
de
48.
Merci beaucoup. J'espère que je serai le premier et pas le dernier. Hein. J'espère qu'il y aura une longue liste et que ça continuera, parce que cette émission est très sympathique.
Et ben, écoutez, on espère aussi. On est parti là-dessus, du basket et des histoires. Ce sera un peu notre créneau.
Je pense que ça pourrait être très intéressant. En tout cas, moi, j'écouterai, je suivrai et je serai un fervent supporter de cette émission.
Et ben, merci beaucoup, Fred. En tout cas, ça nous a fait très plaisir de vous recevoir dans notre studio. On va essayer, on en a parlé un petit peu hors antenne, on va essayer de bouger, on va essayer d'aller rencontrer plein de gens en France. Des joueurs, des gens qui travaillent dans le basket, dans la communication, dans le coaching, dans même des artistes qui aiment le basket. On va essayer de voir le plus de monde possible. Le but, ça va être ça. Ça va être de parler de basket et de raconter des histoires. Vous avez une très très belle histoire. On était très contents de vous recevoir en premier. Du coup, vous êtes un peu le parrain de l'émission.
Rappelez-moi quand vous voulez, ce sera un plaisir.
Donc voilà, vous avez votre siège. Vous année.
D'accord, je reviendrai.
Quand vous voulez.
Avec de l'eau bien fraîche comme vous m'avez donné, là, je suis bien.
C'est ça, on a le frigo rempli de bouteilles d'eau, donc on est bien installé. On vous rappelle donc, enfin, on vous annonce d'ailleurs, puisque c'est la première, que si vous aimez l'émission, vous pouvez la soutenir sur Tipeee. Il n'y aura pas de pub dans ce podcast, il restera gratuit. Les seuls qui financeront, ce sera vous. Donc n'hésitez pas, si vous aimez l'émission, à la soutenir. On va mettre tous les liens sur Basket USA avec cette première. On espère que cette aventure va vous plaire, évidemment. On a plein de belles choses à vous raconter. Un petit merci à Camille Sarabène, mon ingé son de toujours.
Qui vient d'où ? Dites-le.
Qui vient de Limoges. Un petit merci à Camille Sarabène qui était là pour assurer la première parce que j'étais tout stressé pour ma première longue interview et il a accepté d'assurer la technique pour que j'ai pas ça à penser. Donc merci beaucoup à lui. Et Fred, on va terminer d'ailleurs avec une petite tradition qu'on va lancer. C'est l'invité qui choisit la musique de fin. Alors, j'ai six morceaux à vous proposer. Okay, parce que, alors je vais le dire, j'ai été briefé. On parlait d'Alex Biggerstaff tout à l'heure hors antenne, donc je le salue, c'est lui qui m'a, je l'ai textoté pour avoir des infos. Je lui ai dit, t'as partagé une voiture avec lui il y a pas longtemps, est-ce que le sujet de la musique est venu? Donc il m'a dit que vous aimiez pas mal de choses. Donc oui. Choix très large. Je vous propose Rocketman d'Elton John, Kendrick Lamar, Alright, Are You Mine des Arctic Monkeys, le chanteur de Daniel Balavoine, Manu Chao, La Vida Tombola, parce qu'on m'a dit que vous aimiez bien les musiques latines depuis votre passage en Espagne. Ou alors Bone Thugs Harmony avec East 1999.
Manu Chao.
Ah, Manu Chao. Et j'espérais en plus celle-là. C'est donc La Vida Tombola. Et ben on va se quitter là-dessus. Merci encore,
merci beaucoup,
Fred Weiss.
Ça a été un plaisir.
Merci à vous. C'était vraiment un plaisir partagé. On se quitte donc avec Manu Chao. On vous dit à très bientôt pour une prochaine émission. On peut même lancer, bah oui, parce qu'il y a une petite intro longue, donc on peut parler dessus. Merci beaucoup, Fred Weiss. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode de 48.
Como es, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundio Visión, para gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.